Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Vous êtes sur Europe 1, les grandes voix du week-end en débat jusqu'à 19h. Je les accueille ce soir en studio. Laetitia Krupa, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, patron de MCBG Conseil. Et François Claus, grand reporter et rédacteur en chef à Europe 1. Soyez les bienvenus, madame, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, Wendy.
Dans nos échanges de ce soir, le plan d'action de Gérald Darmanin pour restaurer l'autorité. Reconduite aux frontières, coopération internationale, réorganisation de la police, de la gendarmerie, c'est l'un des ouvriers les plus actifs du gouvernement et on fera le point sur cette stratégie. À la une encore, conséquence de la crise sanitaire, nous en parlions, ce chiffre terrible, 300 000 SDF en France, le nombre a doublé en 8 ans, 1 million de pauvres supplémentaires depuis mars, la précarisation sociale en marche, que font nos élus et que peut faire le gouvernement. Et puis notamment, une semaine après l'élection de Joe Biden, le plan média de Barack Obama, sorti du premier tome de ses mémoires, ce sera mardi. Interview sur France 2 de l'ancien président américain le même jour et des bonnes feuilles dans le JDD aujourd'hui. Qu'en retenir ?
Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Avec notre rendez-vous rituel pour commencer ces grandes voix, vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Laetitia Krupa. Alors vous étiez à la fois devant la télé, sur Twitter, vous vous intéressez à l'information toute la journée et vous avez vu quelque chose.
Oui, pour tout vous avouer, c'est un coup de cœur, un petit peu ironique on va dire, pour un lapsus ou un acte manqué, on ne sait pas, du préfet des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe. Je l'ai vu sur Twitter pour être très honnête, mais il était interviewé sur BFM TV hier matin pour témoigner du serrage de vis annoncé par Gérald Darmanin sur les contrôles policiers pour le non-respect du confinement.
Oui.
Et il a dit ceci.
Globalement, tous ceux de bonne foi ont bien compris les règles et les appliquent facilement. J'étais hier sur des contrôles dans des endroits où on vend de la drogue. Personne parmi les acheteurs et à plus forte raison parmi les vendeurs n'avait d'attestation. Donc vous voyez bien que je pense que ce système est bien compris et le système de nos attestations est quand même très déclaratif.
Et donc, les dealers ne seraient pas de bonne foi, Laetitia Krupa.
Vous avez bien entendu, vu que les
c'est
dealers et les acheteurs de drogue n'avaient pas d'attestation, cela prouve, selon le préfet, que le processus des attestations est bien compris. Évidemment, sur les réseaux sociaux, la vidéo a buzzé, comme on dit, elle a été tournée en dérision. Et c'est vrai qu'après avoir cru à une blague, je me suis rendue à l'évidence, il s'agit d'une démonstration par l'absurde. Voilà, on va quand même avoir ce bénéfice du doute en faveur d'Emmanuel Barbe. Et le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône a répondu, bien sûr. Donc, il est donc pire de sortir sans son attestation que de vendre de la drogue. Bon, même si on a envie d'être plutôt sympa avec le préfet, il y a quand même deux affirmations qui posent problème. Une, à l'extérieur, donc pendant le confinement, on peut être à l'extérieur pour dealer. Et deux, on peut ne pas respecter les règles. Cela veut dire quoi, Wendy ? Ça fait écho, évidemment, je vous parle de ce sujet parce que ça fait écho à la lettre des 101 maires envoyée à Emmanuel Macron pour qu'il s'occupe davantage des quartiers défavorisés. Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans ces quartiers, on accepte des règles qui ne sont pas celles de la République. C'est toujours ce même problème qui nous ramène à ces quartiers. Là, c'est une démonstration par absurde, mais ça dit bien ce que ça veut dire, parce que finalement, c'est vrai ce que dit le préfet.
Oui.
Au fond de vérité, c'est ce qu'il a vu. Et donc, est-ce que les sommes demandées par les 101 maires seront suffisantes et seront bien sûr nécessaires, mais suffisantes pour faire cesser ces zones comme ça qui fonctionnent autour de règles qui leur sont propres.
1% du plan de relance des 100 milliards annoncés, mis sur la table, réclamés notamment par ces maires. Merci pour ce coup de cœur en forme d'ironie dont on retiendra quand même évidemment la profondeur du propos. François Claus, coup de blues, nous sommes le 15 novembre 2020.
Oui, nous sommes. C'est une étrange impression que je voulais partager avec vous, que j'ai ressentie, évidemment, quand on entend 13 novembre. On ne peut pas ne pas avoir de si douloureux souvenirs. Et Laetitia Krupa sait de quoi je parle, elle qui a réalisé ce très beau film Alice et Aristide, qu'on a pu revoir sur la chaîne L'Équipe, qui raconte comment deux des rescapés du Bataclan tentent de se reconstruire, dont le rugbyman Aristide Barreau. Évidemment, le 13 novembre, on y repense tous. Qu'est-ce qu'on faisait ce soir-là, ce drame. J'étais moi-même au Stade de France à commenter en direct le match France-Allemagne en entendant les explosions, puis les 6 heures d'antenne en direct pour raconter ce qui était en train d'arriver. C'est évidemment tout ça encore à fleur de peau. Mais c'est plus en ce 13 novembre 2020 à repenser à ce qui s'est joué après. Comment nous avons su collectivement, par rapport à ce drame, apporter une réponse. Tout simplement parce qu'on était, à un moment donné, ensemble, qu'on a pu crier ensemble, qu'on a pu être ensemble pour résister ensemble, qu'il y avait un discours d'unité nationale autour de cela. J'ai le souvenir, moi, 10 jours après être allé à un premier concert, juste en face du Bataclan, aller voir à l'Alhambra le chanteur anglais Richard Hawley, qui nous faisait tous chanter All You Need Is Love. Bien sûr, c'est pas grand-chose, mais on était tous ensemble. Et 5 ans plus tard, en ce 13 novembre 2020, alors qu'on est enfermé chez soi, alors qu'il est impossible d'écrire un récit collectif, alors qu'il n'y a plus d'adhésion ni au discours politique général, ni au discours scientifique, je mesure toute la difficulté qu'il y a avec cette épidémie à construire ce récit national qui nous manque tant aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. 13 novembre 2015, 13 novembre 2020, il est vraiment temps qu'on puisse de nouveau être ensemble.
François Claus, merci voilà, pour ces mots sur Europe 1. On va terminer ce petit tour de table avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Coup de quoi ce soir ?
Alors, c'est un coup partagé, oui. On va dire, pour un clip allemand, un clip de prévention de l'État, allemand,
oui.
Contre le Covid. Alors, ça c'est traité sous le mode d'un documentaire. On voit un monsieur d'un certain âge face caméra dans son salon.
Voilà, il se livre en allemand. C'est sous-titré en anglais, si vous voulez regarder.
Absolument. Il dit, quand on a 22 ans, on veut s'amuser, on veut sortir, on veut faire la fête. Mais le destin en avait décidé autrement pour nous.
Ouais, donc il se plonge, on est en 2070, quoi. C'est dans 50
Alors,
ans,
oui,
c'est
on découvre après qu'en fait, il parle de l'année 2020.
Ouais.
Mais on a le sentiment, en l'écoutant, qu'il pourrait parler de la Deuxième Guerre mondiale, d'événements vraiment tragiques.
Comme un vétéran.
Et là où il y a un ressort, entre guillemets, comique, c'est que non, il parle juste de l'année 2020 en disant ce qu'on nous a demandé comme génération, c'était de rester sur notre canapé à manger des pizzas. Voilà. Donc il y a un décalage entre ce qu'il dit, en fait, qui est « Nous, notre sacrifice, ça va être ça, donc quelque part, c'est pas grand-chose ». Et le décorum très lourd, comme si c'était une tragédie grecque.
Mais finalement. Il est génial ce clip. Moi, je le trouve. Vous êtes mitigé, vous.
Moi, je suis mitigé. Il est génial parce que, oui. Effectivement, il est très bien fait. C'est très intelligent, c'est très bien fait et c'est drôle. Là où je suis plus partagé, c'est qu'il arrive au même moment qu'une étude européenne qui a été faite sur les meilleures manières de communiquer pour mobiliser la population contre le Covid. Ils ont analysé la communication dans toutes les démocraties. Ce sont des universitaires britanniques qui ont fait ça. Et en gros, il y a 3 critères d'efficacité. Il y a la rapidité. Pour contrer les rumeurs. Donc, c'est un peu ce que disait François. Tous ensemble, ça veut dire déjà qu'on est tous d'accord sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on analyse. Aller vite. Donc ça, la France n'est pas très bonne. Ensuite, l'empathie. Et c'est là où il y a un souci. Il faut partager les émotions des gens. Les millennials, puisque c'est eux qui sont visés dans le clip. D'accord, ok, c'est vrai,
ceux
par rapport aux autres générations.
Pont, oui.
Ouais, ils n'ont pas la guerre à faire, c'est vrai. Ils n'ont pas fait la guerre d'Algérie, ils n'ont pas fait la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas été confrontés à la déportation. Tout ça est vrai. Mais ils vont avoir un mal de chien à trouver un travail, ils vont avoir du mal à s'insérer socialement et ça reste traumatisant pour eux comme pour tout le monde. Et donc ce manque d'empathie ou ce manque d'émotion collective, ça diminue les campagnes. Et puis la troisième erreur, c'est d'utiliser plutôt des métaphores. Alors c'est pas le cas dans ce clip, mais c'est de lier ça aux militaires, d'utiliser des métaphores militaires. Donc là, ça critiquait plutôt la France en disant on n'est pas en guerre.
Ouais.
Donc ce que disent les universitaires, c'est il faut surtout pas dire qu'on est en guerre. Il faut faire comme la Nouvelle-Zélande. Et dire qu'on est une équipe de 5 millions de personnes. Il n'y a que 5 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande. Donc, il vaut mieux dire qu'on est une équipe de 80 millions de personnes en Allemagne ou une équipe de 68 millions. Ça rejoint ce que dit François, il faut créer du commun, du collectif. Quand on va dans le collectif, on trouve la solution. Quand on commence à diviser les gens, même si c'est drôle... C'est pas efficace parce qu'au fond, les millénials, d'accord.
Bien sûr, non, mais ils
visent. On peut
juste...
rapprocher ça d'ailleurs, Wendy, du regard des Allemands sur la manière dont on gère, nous, le confinement en France. Il y a un édito ce matin dans le grand journal allemand Die Zeit,
oui.
Le Temps, qui qualifie la France de pays absurdistan, disent-ils, elle, puisque c'est une journaliste en l'occurrence, elle comprend pas qu'on est obligé d'avoir une autorisation pour aller chercher ses enfants à l'école ou pour aller chercher du sirop à la pharmacie. Elle qualifie notre régime. Macronien de quasi monarchique avec un parlement qui est piétiné au profit plutôt d'un conseil de défense, et les Allemands ont du mal à comprendre la manière dont nous Français on est à la fois là à gérer ce confinement et ce couvre-feu.
C'est très humiliant, les attestations. C'est très humiliant, une attestation.
Non, mais la vérité, quand même, dans ce clip qui s'adresse en effet aux jeunes, c'est de dire, OK, dans 50 ans, on va relativiser certainement. En fait, on nous demandait juste d'être responsable, de rester à la maison et d'éviter de propager ce virus en restant sur un canapé. Mais bien sûr, il y a toutes les considérations qu'on connaît,
économie sociale. C'est traumatisant
quand même. D'accord, voilà,
j'entends bien, on vient de parler de la pauvreté en France. Mais
il y a un fond de vérité. C'est difficile, vous savez, c'est toujours difficile de hiérarchiser les mots, M-A-U-X. c'est toujours difficile de hiérarchiser les douleurs, c'est toujours difficile de hiérarchiser les deuils. Je trouve que c'est vraiment casse-gueule en fait de faire ça, parce que bien sûr que le message...
Mais c'est la vérité, on ne nous demande pas de prendre les armes, on nous demande de rester chez soi.
On a compris, mais du coup, ça dévalorise aussi l'effort que font les jeunes. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Philippe, quand on est en communication, il faut être sur des valeurs positives. Positive. Là, on leur dit, ça va, c'est bon, tu vas rester un an sur ton canapé. Il y a eu pire, t'aurais pu être dans une tranchée et être
transpercé
par une baïonnette.
Si, c'est bien de relativiser. Mais c'est vrai, je vais vous donner un exemple, là, très rapidement. Dans ma belle famille, la grand-mère, elle avait fui la révolution de 17. Elle était juive, elle a été déportée en 40. Ses enfants ont été cachés dans une cave. Elle est revenue d'Auschwitz, elle a survécu à ça. Son fils a été envoyé à la guerre d'Algérie, il a failli mourir. Ok, on peut pas faire plus que ça. Mais ça n'enlève pas le côté tragique de la situation actuelle telle qu'il est ressenti par les gens. Et il vaudrait mieux que les gouvernants reconnaissent cette tragédie plutôt que, comme Trump, la nier brutalement et dire que ça n'existe pas. Vous savez ce qui est frappant ? Ce sont les urgentistes américains, juste qui disent ça.
Ça vient d'Allemagne, hein, où la gestion de crise, quand même, est...
Ils ont un nombre de lits de réanimation, mais beaucoup plus grand que le nôtre. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout le même problème. Oui. Nous, la base de cette crise, c'est l'hôpital qui étouffe avec 6 000 patients.
Allez, vous vouliez dire un mot pour conclure ?
18 000 contre 5 000.
Merci, François.
Ce qui me frappe, c'est que quand Trump fait ça, il crée aussi des gens qui arrivent aux urgences, et c'est ce que décrivent les urgentistes américains, c'est que même quand on les intube, quand ils vont mourir, ils continuent à penser que l'épidémie n'existe pas, et ils attaquent les soignants en leur disant « qu'est-ce que vous me faites ? Pourquoi vous ne me donnez pas de la chloroquine ?»
Merci.
Jusqu'au bout.
Merci à tous les trois pour ce débat. Je renvoie les auditeurs à Internet, à aller trouver cette vidéo des autorités allemandes, et vous nous direz ce que vous en pensez sur le hashtag Europe 1. Dans un instant, les mots du ministre de l'Intérieur qui font la une du Parisien. Le cancer de la société, c'est le non-respect de l'autorité. A tout de suite dans le débat des grandes voix.
Europe 100 Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat sur Europe 1 jusqu'à 19h, comme chaque samedi et chaque dimanche. Je reçois Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, François Claus avec nous pour parler des menaces terroristes et de l'urgence à embrasser le thème de la sécurité qui sera probablement un des thèmes les plus clivants à l'horizon 2022 de la présidentielle. Et Gérald Darmanin repart au front. Il était, nous en parlions la semaine passée, en tournée au Maghreb, mais aussi en Russie pour tenter de coopérer sur l'accueil des ressortissants fichés, radicalisés. Il n'a qu'à se baisser tous les trois pour ramasser des exemples flagrants de ce problème d'autorité dans l'actualité. Cette fête à Joinville-le-Pont, cette policière percutée lors d'une intervention aux Ulis, il n'y a que ça dans l'actualité de Laetitia Krupa. Donc il a, j'allais dire, mais un boulevard, mais juste un terrain très favorable pour enfin poser ce débat.
Et il a été choisi pour ça, Wendy.
Complètement.
On a été chercher Gérald Darmanin pour qu'il endosse l'habit du premier flic de France. Il le fait très bien, hein, vocabulaire un peu du terrain, on va dire, pour ne pas dire vulgaire, le culte du chef, de l'autorité, vous l'avez dit, le cancer de la société, c'est le non-respect de l'autorité. Il dit qu'il veut la nomination d'un préfet nommé à l'immigration. Donc en fait, oui, on le connaît, c'est un lieutenant sarkozyste. Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il va représenter dans le gouvernement Castex, et c'est aussi une droite populaire. Parce que Gérald Darmanin ramène aussi ce vote-là, ce vote que la droite a perdu, ce vote qui, avant, tout début historiquement, était à gauche et qui est parti comme ça, qui s'est effiloché vers l'extrême droite, hein, on va dire, beaucoup plus que la France insoumise. Donc Gérald Darmanin, c'est un peu la voiture balai de ce gouvernement à droite pour ratisser large. Et effectivement, dans ce rôle-là, il est pour l'instant assez juste.
Face à une réalité, hein, cela dit, on en parlera avec mes invités ex-patrons du GED, du RED et du GIGN à 19h15, François Claus. La remise en question perpétuelle de l'autorité des forces de l'ordre. Et on a des exemples tous les jours, François.
Oui, enfin, on a des exemples tous les jours, si tant est que c'est ceux qu'on veut mettre en exergue aussi. Certes, cette fête de Joinville, elle est terrible. Certes, les faits qu'on a là, mais ils ne représentent, c'est pas non plus la photographie globale de ce qu'est la France aujourd'hui. Il faut relativiser. Moi, j'ai tendance à être assez sévère quand le problème de la sécurité est traité en matière de com et pas en matière de politique sécuritaire. On fait de la com. Ma grand-mère avait une expression dans la Sarthe quand j'étais enfant, finalement beaucoup de sauce et pas beaucoup de lapin. Donc on prend un exemple, un fait divers, on y va, ça bouge à Toulouse, on va à Toulouse, on annonce 10 policiers, ça bouge à Marseille, on annonce 10 nouveaux policiers. Mais quelle est la philosophie sécuritaire? Quelle est la manière dont on va gérer ces quartiers de non-droit qui sont là aujourd'hui en France? Je ne vois rien venir. Ça se termine par un débat sur le floutage des policiers dans la proposition de loi qui va être débattue au Parlement mardi. Oh, ce floutage, ça rime à quoi? Ça veut dire qu'on va faire de la police aujourd'hui une milice masquée qui va devoir garantir l'ordre des citoyens.
De sources parlementaires, a priori, le floutage ne sera pas retenu. Il est
dans mais n'empêche qu'il a occupé le débat avec ce terme de floutage aujourd'hui. Tout le monde n'a parlé que de ça depuis deux jours. Où est la philosophie sécuritaire? Où sont les moyens? Quand vous voyez que dans une cité comme celle des Isards à Toulouse, il y a 17 policiers en tout et pour tout, officiers de police judiciaire, qui sont chargés de gérer 38 dossiers en cours. Il y a un problème tout simplement de moyens, de philosophie sécuritaire qui n'est pas abordé. Et Gérald Darmanin est là pour faire de la com. Il le fait excellemment, mais c'est au détriment de l'équilibre, je pense, de la société et du vrai débat.
Alors quand même, je trouve un petit peu sévère parce qu'il est question de la réorganisation. Vous allez me dire, c'est un serpent de mer, police, gendarmerie, mais quand même, il explique bien, le ministre de l'Intérieur, que les agglomérations se sont étendues, que la carte de France a bougé, et donc il va falloir aussi redéfinir les périmètres des différentes forces de police et de gendarmerie. Donc, on y va progressivement quand même avec des exemples un peu concrets.
Même, Darmanin, il est quand même là pour faire quelques chantiers. Il doit remettre de l'ordre dans une maison qui a été très, très abîmée par les années Castaner. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est du côté des policiers et qu'il en fait des tonnes sur le floutage. Il veut dire aux policiers, les gars, je suis avec vous,
syndicats. Voilà,
je suis votre champion.
Oui, c'est du clientélisme syndical.
Oui, c'est du clientélisme syndical, absolument. Il est là pour préparer 2022, donc pour bien marquer le gouvernement à droite, si quelquefois on avait un doute. Donc voilà, Darmanin, il est là pour dire... Regardez, c'est chez nous qu'il y a la vraie droite, c'est pas chez le concurrent. Il faut pas oublier que c'est l'ancien lieutenant de Xavier Bertrand. Il est aussi là pour empêcher que Xavier Bertrand revienne trop présent dans le débat. Donc il est multi, c'est un couteau suisse, Darmanin. Bon, il y a un truc que je ne comprends pas, qui est étonnant, c'est qu'il s'oppose au président frontalement aujourd'hui sur un point qui est le vote par correspondance.
Oui.
Alors est-ce que c'est un jeu entre eux ou est-ce que c'est Darmanin qui commence à prendre de l'envergure et à vouloir exister lui tout seul? Mais le président est plutôt pour le vote par correspondance, qui est une excellente idée. D'abord, les États-Unis y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. En plus, ça évite de décaler les élections. Donc, c'est très démocratique. Donc, bonne idée de Macron.
Ça favoriserait la participation, bien sûr.
Darmanin qui dit, il y a une participation record aux États-Unis grâce à ça, quand même, disons-le. Donc, c'est un renouveau démocratique. Et Darmanin dit non. Et il a cette raison qui dégaine tout de suite. Alors, est-ce que c'est un jeu entre les deux? Macron qui veut paraître sympa et Darmanin qui dit non, je ne sais pas. Good cop, bad cop, c'est le cas de le dire. Ou est-ce que c'est Darmanin qui prend de l'envergure et qui décide d'exister peut-être un peu tôt? C'est une bonne question.
C'est une deuxième hypothèse.
Oui, c'est vrai. En fait, moi aussi, je m'étais posé la question, notamment avec le duo Macron-Olivier Véran. Est-ce que c'est la mise en scène de la discussion qui existerait au sein de l'exécutif et qu'il n'y aurait pas une vision monolithique? Vous voyez, de la crise sanitaire, par exemple, avec Olivier Véran. En fait, montrer qu'il y a toujours du pour, du contre, un dialogue, et que finalement, on essaye de trouver une solution qui ferait consensus. Et peut-être que c'est une hypothèse, j'en sais rien, mais c'est une hypothèse, oui, parce qu'il me semble que si un ministre, vous savez comment ça se passe quand même sous la Ve République, prend comme ça ses aises et décide un peu de défier le chef de l'État, en général, à l'Élysée, on lui tape sur les doigts assez rapidement. En coulisses, on le fait savoir ou pas, parce que parfois, on met aussi en scène cette petite punition, on va dire, cette réprimande. Donc, je serais plutôt... je pense sur l'hypothèse de la mise en scène du dialogue contradictoire au sein de l'exécutif.
Bon, en tout cas, on prolongera ce débat à 19h15 avec mes invités Jean-Michel Fauvergue et Thierry Orozco, notamment sur l'aspect indispensable aujourd'hui des primo-intervenants dans les actions terroristes, la police de proximité, la BAC notamment. On se retrouve dans un instant pour la fin du débat des grandes voix et on va partir en Amérique parler de Barack Obama. Publication mardi du premier tome de ses mémoires, exclusivité sur France de mardi soir. Est-ce que ça va se vendre, à votre avis? À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1, journaliste politique. Elle est avec nous, Laetitia Krupa, François Claus, rédacteur en chef et grand reporter, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil. Alors on parlait de la une du Parisien il y a quelques instants avec Gérald Darmanin. Parlons de celui qui fait la une du journal du dimanche aujourd'hui, c'est Barack Obama. Le journal qui publie en exclusivité des extraits du premier tome de ses mémoires. 890 pages qui vont sortir mardi chez Fayard. Ce livre intéressera-t-il les Français, François Claus ? Pour mémoire, on va rappeler quand même que celui de son épouse, Michelle Obama, avait été vendu chez nous à 400 000 exemplaires. Hein. C'est dire si l'Amérique fascine et ce couple en particulier.
Non, mais je pense qu'Obama, il a une cote démesurée en France. Mmh. Oui, c'est d'ailleurs, nous, ça a perturbé notre regard sur l'Amérique, d'ailleurs. Hein. Oui. Et d'ailleurs, dans ce livre, il reconnaît, Obama, qu'il n'a pas vu l'Amérique qu'il y avait derrière Trump. Les 72 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Après, j'ai pas eu le temps de lire les 300 premières pages qui sortent mardi, pour tout vous dire, mais j'ai regardé le discours d'Obama il y a 4 ans, presque jour pour jour, lorsque un discours qu'il improvise d'ailleurs largement. Je vous conseille d'aller le voir sur les réseaux. Joe Biden est juste à ses côtés. Il raconte et il improvise devant le peuple américain que le nouveau président élu, vainqueur, Donald Trump, l'a appelé à 3h30 du matin, qu'ils ont parlé ensemble. Et là, il se lance dans un cours, finalement, de démocratie en disant « Oui, les élections, on peut les gagner, on peut les perdre. La grandeur de notre pays depuis 240 ans, eh bien, c'est tout simplement cette passation de pouvoir. J'invite le président Trump à venir dès demain à la Maison-Blanche pour organiser cette passation. Il faut respecter ce qu'il appelle les « fellow citizens » nous ont envoyé comme message. C'est la grandeur de notre pays. » Quand vous entendez ce message, 4 ans après, que vous voyez son successeur aujourd'hui se débattre avec ses tweets rageurs en majuscules totalement, mais totalement nuls, vous vous dites, et j'aime bien la phrase que notre confrère François Clémenceau a utilisée dans l'éditorial du journal du dimanche ce matin, finalement, il faisait avant lui de l'anti-Trump. Obama, c'était l'anti-Trump avant Trump, et là, c'est une démonstration encore éclatante, donc je pense oui qu'il faut lire comme une leçon de démocratie ce que seront ces 300 pages.
Ah oui, dans lesquelles il raconte les grandes décisions qu'il a prises entre 2009 et 2011, la crise financière qu'il affronte évidemment, et puis entre autres l'élimination de Ben Laden. Alors, nous ne l'avons pas lu encore, simplement petite parenthèse pour dire que joli coup hein, pour France 2 qui nous diffusera, donc mardi 20h40, la seule interview française du président américain Barack Obama.
Oui, et qui est faite par François Bunel.
Très beau choix. Il ne voulait pas de journaliste politique, manifestement.
Voilà, c'est ça.
L'homme de la grande littérature américaine.
Exactement. François Bunel, donc, qui est présentateur de La Grande Librairie sur France 5. Donc, c'est un angle littéraire. Oui. Évidemment, François Bunel va lui poser des questions politiques parce que tout ce qui intéresse, en tout cas j'imagine, au-delà évidemment de la fascination pour la star mondiale, tout le côté vraiment showman, etc., qui est indéniable évidemment, mais on a envie de savoir, alors même s'il la raconte, hein, mais bien sûr l'élimination de Ben Laden, c'est quand même un des épisodes les plus marquants, il me semble, hein. D'Obama à la Maison Blanche et oui, on l'attend avec impatience, et pour France 2 c'est exceptionnel, c'est ce qu'on appelle un scoop. Et alors, c'est rare aujourd'hui.
Vous parlez d'épisodes un peu fondateurs du récit national, pour reprendre votre expression américain, l'élimination de Ben Laden, mais il croque aussi ses homologues, et c'est ce qui va intéresser certains. Angela Merkel qu'il vénère, Poutine qu'il ne juge pas physiquement impressionnant. Vous avez lu ce qu'il dit de Nicolas Sarkozy, Philippe Moreau-Chevrolet?
Non.
Il le décrit comme un coq nain qui bombe le torse.
Ah oui, ça j'avais vu, oui. Bon, c'est assez facile de décrire Nicolas Sarkozy comme ça.
Ouais, mais c'est ce qu'on attend d'un ancien président, ce genre de petite phrase américain.
Non,
avec
mais en
élégance.
Même temps, si un ancien président ne se lâche pas un peu, on n'est pas obligé de se lâcher autant que François Hollande. Il y a des limites dans le bien raisonnable. mais il y a
des choses qu'un président ne doit pas dire, on le sait.
Choses qu'un président ne devrait pas dire, sur 600 pages en particulier, mais en tout cas, ça fait du bien qu'il donne un petit peu de coulisses, un petit peu de croustillant.
Bon, on espère que sa vision de la France ne se résume pas au centimètre.
Tout le monde est sympa, tout le monde est gentil, vous voyez. Et puis les Français ont cette réputation d'être des coqs, voilà, c'est comme ça. C'est le cas de Macron, c'est le cas de Sarkozy. Est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a une caractérisation nationale comme ça? Je ne sais pas, mais c'est
le
comme ça que
gaulois,
les homologues nous perçoivent.
Pas le coq nain. Ouais.
Un coq nain.
Je vais être un peu cynique et je veux pas casser l'ambiance. Mais en fait, avec ce succès attendu de Barack Obama, tout le monde attend le livre de Trump. C'est le livre de Trump qui fera l'événement.
C'est, c'est un recueil de tweets qu'il faut faire. C'est pas un livre.
Il a déjà écrit. Faudrait-il qu'ils savent écrire.
Oui, c'est ça.
Tout petit mot quand même pour vous dire que pour écrire leurs mémoires respectives, ils ont reçu, Michelle et Barack Obama, 65 millions de dollars.
Oui, puis
ils ont acheté leur maison à cause de ça.
Rappelons aussi que c'est complètement verrouillé. Donc c'est eux qui choisissent leurs intervieweurs. C'est eux qui choisissent la façon dont ça doit se passer. C'est des stars. C'est comme Madonna à une époque.
Ce sont des médias,
par eux-mêmes. Oui,
bien, eh ben, écoutez, merci. Alors, sur vos librairies indépendantes, en cliquez, emportez si vous le voulez. Ce sera mardi chez Fayard. Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, François Claus, au cœur du débat des grandes voix. C'était un plaisir. Il est l'heure de l'info. Bonsoir, Sophie Tussaud, car il est 19h sur Europe 1. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité.
Bonsoir, Wendy, bonsoir à tous.